C'est ça. Non, non, on a des problèmes. Tout simplement, je viens de lire dans Le Monde la diatribe du Monde sur le livre de Drahi. Alors, je suis encore encombré de mémoire. Bon, vous la lirez dans Le Monde. Et donc, je reviens au problème. Il interpelle Onkelos. Il dit, qu'est-ce que tu as fait là ? L'envoyé de l'empereur, j'ai dit empereur, non, devenir juif, quel scandale à l'époque, je ne sais pas si vous imaginez, un romain devenu... Depuis, les romains sont fiers de se prétendre les juifs, mais à l'époque, c'était vraiment un scandale blasphème. Alors, Onkelos lui répond, mais c'est le conseil que tu m'as donné. J'ai trouvé dans Le Monde la plus sale affaire qu'il pouvait y avoir, l'histoire juive, mais j'en occupe. Donc, bien, je reviens à notre question. Parce que, en fin de compte, je crois que la question la plus importante de notre sujet, c'est peut-être pas tellement, et là il y a une atmosphère de sagesse talmudique finalement, c'est peut-être pas tellement de se demander si l'hébreu était la langue originelle, personne n'en aura jamais la preuve, ni de oui, ni de non, ni de la thèse, ni du contraire. Mais quel est le problème de la langue universelle? Alors il y aurait des chances que la langue universelle et que c'était la langue originelle, mais ce serait un problème second. Est-ce que c'est bien clair, la manière de poser le problème? Et je crois que ce qui nous a préoccupés, lorsque nous avons réfléchi à ce sujet, c'est le lien entre le problème de du récit de la tour de Babel, la diaspora des nations, et indiqué par le texte lui-même, corollaire à la diaspora géographique des peuples, des pays, pardon, et à la diaspora des langues, puisque le texte dénomme les nations par leur famille, nation en tant que famille humaine, leur pays et leur langue. Il y a donc trois diasporotes, si on peut mettre ça au pluriel hébreu, mais bien que ce soit un terme grec, il faudrait dire trois diasporas en grec tout simplement. Trois diasporas, la diaspora des pays, et peut-être que l'humanité est en train, dans un effort ultime, au bout de 2000 ans de la civilisation contemporaine, d'arriver à l'idée de l'universalité géographique. Et il y a la diaspora des peuples. Et là, l'ONU est en douleur d'enfantement, j'en dirai pas plus. Et est-ce qu'il y a l'espérance d'une naissance? C'est pas une matrice comme l'ONU, on peut s'attendre à tout, même que ça réussisse. Et puis, il y a la diaspora des langues. Et par conséquent, il est bien évident que l'exigence de l'universel qui travaille au niveau géographique, au niveau des, comment dire, politiques, des sociétés, ne peut avoir d'issue que si elle était accompagnée d'une espérance de l'universel au niveau du langage. Là, je vais me préciser le problème. Nous avons étudié hier soir une source très importante la Gemara Megillah et du Sifré sur un verset des derniers chapitres du Deutéronome. On ne va pas se charger d'érudition, mais nous avons les références ici, qui indique, et c'est cité par le Torah Tmima, qui indique que, à la révélation du Sinaï, la Torah a été révélée simultanément en hébreu, en arabe, en latin et en araméen. Et nous avons la source très claire. Et l'étonnement hier soir était que on s'attendrait qu'il y ait quatre langues à la rigueur, l'hébreu, l'araméen, le latin et le grec, puisque, semble-t-il, cela a été les langues véhiculaires de la diffusion de la Bible. Je rappelle d'ailleurs que, je pense l'avoir précisé aux travaux pratiques de ce matin, que la langue de traduction de la Bible ne peut être qu'une langue déjà arrivée à la dignité de langue universelle au niveau de la civilisation de chaque contemporanéité. Dans la contemporanéité de la civilisation grecque, le grec pouvait se présenter comme langue universelle et donc apparaît comme langue de traduction. Et comme ça, si la question se posait aujourd'hui, il s'agirait de l'anglais, au fond. Parce que, en me reconnant sur la première question de David, tout ça, pas parce que l'anglais serait langue de vérité, langue originelle, langue dans le sens de langue de vérité, mais parce que l'anglais est la langue de la civilisation contemporaine, on n'y peut rien, okay? Je vais vous dire à quel point, lorsque nous avons des congrès juifs internationaux, les trois mots sont pourrimesques. Congrès juifs internationaux. À Jérusalem, eh bien, la langue officielle du peuple juif, apparemment, c'est l'anglais. Et je vous avoue que les francophones ne sont pas contents. Mais c'est surtout les Israéliens qui ne sont pas contents. Et je sais bien qu'on a beaucoup de reconnaissance à avoir pour les Britanniques. En particulier, nous avons reçu deux Eretz Israël, comme vous savez. On leur a donné un coup de main. Et je crois que c'est vraiment une coïncidence que les premiers sionistes ont décidé que les couleurs du drapeau d'Israël seraient les couleurs de la bannière de Jeanne d'Arc. Où est le rapport? C'est bleu et blanc, le même bleu et le même blanc, d'ailleurs. La bannière de Jeanne d'Arc et le drapeau de l'État d'Israël, ben, vous rappelez qui est Jeanne d'Arc, et qu'elle avait une affaire avec les Britanniques. C'est ça que je veux dire. Je reviens au sujet, mais c'est surtout que je crois que sera, relié dans la mémoire de l'humanité que de notre temps, pour notre civilisation, la diffusion de la Bible, nous la devons aux Anglais. C'est finalement eux, beaucoup plus que d'autres, qui ont assuré la diffusion et la traduction de ce livre. Mais tout simplement parce que c'est la langue de la société contemporaine. Alors je vais me brancher sur, non pas une étude talmudique, que si nous avons le temps, on la fera quand même, où le Talmud pose la question de savoir si la prière peut être faite en toute langue ou doit être faite en hébreu, mais ou bien sur le texte du Talmud, qui est un des chapitres de la Maseret Shabbat, qui parle de la question de la sainteté ou non-sainteté des traductions des livres saints, c'est le Perek Kodesh HaKodesh, mais sur un enseignement d'un grand maître contemporain qui est décédé il y a quelques années, qui est l'un des grands commentateurs contemporains du Maharal, et qui est le Rav Houtner, dont vous avez peut-être entendu le nom, et qui a posé le problème de l'opposition entre le génie hébraïque et le génie grec. En fait, comment se pose la question par rapport à notre sujet? Les Juifs ont opté pour l'araméen comme langue de traduction de l'hébreu. C'est l'araméen qui était la bretelle de communication avec le monde extérieur. Je pense, et je n'ai pas encore de source scientifique, historique, entre guillemets, à ce sujet, c'est parce que c'était le langage de traduction de l'hébreu au temps de la civilisation chaldéenne. Lorsque la civilisation était celle de Babel, alors, si j'ose dire, mettez entre guillemets, le yiddish des Hébreux de ce temps, c'était l'araméen. Et par conséquent, l'araméen, c'est la langue de communication avec le monde des Juifs du temps des Hébreux du temps de la Chaldée. Autant grec, eh bien, est apparu en compétition la prétention de remplacer l'araméen, la prétention du grec de remplacer l'araméen. Et nous reviendrons peut-être sur ce sujet dans d'autres dimensions. Or, il est important de voir, et là j'étais heureux de l'accord du père Dupuis, que, effectivement, le grec n'est pas considéré, ne peut être considéré comme une des quatre langues de la révélation. Les quatre langues que je vous ai citées, c'est les langues de la famille d'Abraham. Je reprends très brièvement ce que dit le Midrash à propos du verset « Hachem misinaï ba zelachon ivri, ve zarach miseir lamo zelachon romi, ofia mehar paran zelachon aravi, ve'ata miri bevot kodesh zelachon arami ». Ça veut dire que le verset que je vous ai cité, que je ne traduis pas, ça me prendra un quart d'heure, et puis ça va vous assoupir, tarder ma targoum. Est-ce qu'on peut d'ailleurs ouvrir les fenêtres qu'on se réveille, oui, donner un peu d'air? Eh bien, ce verset cite quatre régions géographiques qui renvoient aux quatre grandes lignées de la famille d'Abraham. Bon, Abraham sort du monde de l'exil des Hébreux en Chaldée, c'est-à-dire l'araméen, et puis il va réinstaurer l'hébreu, Abraham à Ivry. L'hébreu, c'est finalement la langue d'Israël. Mais Abraham a une lignée qui est Ishmaël, sa langue c'est l'arabe, c'est une langue de la famille d'Abraham. Isaac a un fils, Ésaü, qui donnera le génie de la civilisation romaine. Bon, c'est un sujet en soi. Si il est nécessaire de l'éclairer, il faudra prendre le temps. On est beaucoup plus familier à l'équation Ishmaël-Islam. On est beaucoup moins familier à l'équation Ésaü-la chrétienté. On peut s'en expliquer tout à l'heure si vous voulez, mais on va les mettre comme postulat. Et donc, il y a par privilège quatre langues qui peuvent être véhicules à des harmoniques divers, d'écho de la voix, si j'ose dire, de la révélation en hébreu. Et il n'y a pas le grec. Et effectivement, bien que dans notre connotation des exils ou des empires, le grec et le romain, ça va ensemble. Eh bien, J'étais donc heureux d'entendre l'acquiescement du père Dufy, qui a étudié ces questions-là du point de vue de la tradition chrétienne, et qu'il considère lui aussi le grec comme langue de traduction, en l'adoptant. Alors que pour la problématique juive, ça fait problème. Et le conflit a été finalement entre la bifurcation de l'écho de la révélation à travers l'araméen, le Talmud, le judaïsme, ou à travers le grec, les évangiles, le christianisme. Et nous sommes 2000 ans après confrontés à la racine de ce problème, avec toutes les dimensions d'un problème extrêmement complexe, bien que le mot fasse un peu pédant, il est vraiment complexe ce problème, avec le problème contemporain des traductions des sources juives en langue non hébraïque. C'est-à-dire en France en français, en Amérique en anglais, ou en Angleterre en anglais, en Allemagne en allemand, en Espagne en espagnol. Et il y a, comme vous le savez, un phénomène massif depuis la fin de la guerre, de traduction des sources juives dans ces langues de type grec, disons, et ça nous renvoie à la problématique en Antioche, Alexandrie pour les chrétiens, Babel, Alexandrie pour les juifs. Donc c'est vraiment un problème sérieux. Alors très rapidement, je me brancherai sur l'enseignement que donne le Rav Outner au sujet de la différence entre l'hébreu et le grec en tant que langue universelle. Donc je vais laisser de côté le problème langue universelle. On peut le recoder. Si effectivement on a des idées claires sur la langue universelle, il y a des chances qu'elle eût été originelle. C'est surtout un enseignement à propos de Hanouka et à propos de l'affrontement entre les Judéens et les Grecs, au temps des Asmonéens, au temps de l'occupation grecque de la Judée. Et le Rav Outner met en évidence de façon extrêmement profonde, et à mon sens, la première fois que c'était formulé ainsi, les attendus de ce conflit. Je ne vais en retirer de cet enseignement que ce qui concerne notre sujet. Et c'est ceci. Alors, le problème, c'est la référence qui a été citée sur la descendance de Japhet, qui est la lignée d'un des fils de Noach, de Noé. La descendance de Japhet sera invitée à être installée, Vishkon Be'ahol Shem, dans les tentes de Shem. Problème de Ham, la descendance de Ham est un autre problème, on ne peut pas parler de tout à la fois. Mais enfin, et c'est ce que dit le Talmud, puisque nous avons cette prophétie de Noé, que la descendance de Japhet, et Japhet est un mot hébreu, Yafet, qui renvoie à l'idée de la beauté, et tout de suite le Talmud va épingler quelle est la beauté de Japhet, c'est Yavan, c'est la Grèce, c'est la civilisation grecque. Et tout de suite ça nous est familier. Dès qu'on pense au génie grec, alors on pense d'abord à l'esthétique. Je vous avoue que je ne suis pas, comment dire, esthète, c'est un mot péjoratif en français, ça peut être un mot péjoratif, enfin, je ne suis pas compétent pour vous parler des critères de l'esthétique. Mais il y a des consciences pour qui l'esthétique, c'est d'abord les canons de l'esthétique grecque. Ce n'est pas forcément le cas d'autres qui préféreraient d'autres univers esthétiques. Mais c'est un autre problème. La culture occidentale est familière à cela. La Grèce, tout de suite l'esthétique, mais aussi la mathématique. Et j'y arrive. Et c'est à cause du fait que le génie grec a réalisé dans l'histoire la beauté de Japhet que les rabbins ont vu dans la civilisation grecque l'accomplissement de cette prophétie. Et ils ont décidé, s'il faut traduire, c'est moi qui interprète comme ça, la Bible, alors par privilège on la traduira en grec pour réaliser ce que dit ce verset. Le problème corollaire, et nous l'avons aussi un peu signalé hier soir, c'est que le grec c'est pas seulement une langue, c'est que le grec véhicule une sagesse. C'est que le grec véhicule une vision du monde. Et le conflit n'était pas au niveau de la langue, mais au niveau de ce que la langue véhiculait. Et je ne dirais pas la philosophie grecque, parce que le conflit avait commencé avant le temps de la philosophie, mais disons la sophia, la sagesse grecque, et c'est ainsi que le grand maître en parle. Par exemple, le Maharal, lorsqu'il parle du génie de la pensée grecque, il ne dit pas la philosophie, il dit la sagesse. C'est encore un autre sujet, mais c'est nécessaire de l'indiquer. Alors voilà ce que nous propose comme analyse, et quand je dis la sagesse, la sophia, parce que si je le dis en français, la sagesse, si je l'entends avec une oreille biblique, ça me renvoie à la chorma, mais il faut l'entendre avec l'oreille grecque, et la sophia et la chorma, c'est pas exactement la même chose. Bien que les gnostiques nous diraient que c'est la même chose, mais ça c'est les gnostiques, que c'est la même hypostase, ils disent. Parenthèse que je referme. Eh bien, le Rav Outner nous propose ceci comme schéma d'explication. C'est que la langue universelle a disparu. Et puis, deux, par privilège, deux parmi les lignées humaines, sans s'être attachés à la retrouver, en tout cas, en être le véhicule ethnique, en être la société d'expression, et l'histoire va montrer qu'ils sont qu'ils ont réussi, quelles que soient les péripéties en cours de cette réussite. Et que le génie grec a retrouvé la langue universelle au niveau de son génie propre, qui est le génie esthétique et mathématique. C'est-à-dire la langue universelle lorsque la langue parle la forme, l'inerte, l'impersonnel, le déterminé, et d'où simultanément la beauté de la forme et sa rigueur. Est-ce que j'ai réussi à indiquer ce que le rabbin veut indiquer ici? C'est que le génie grec a été sensible au monde de la matière, en a fait la loi, en a retrouvé la langue. Il est indéniable qu'il y a une langue universelle des savants, et c'est la mathématique. Et donc la langue universelle, au niveau de l'ordre de la quantité et de la forme, a été retrouvée grâce au génie grec. Et le génie grec l'a fait à l'échelle de l'humanité entière. Et que lorsque un homme de quelque culture que ce soit commence à faire la science, dans le sens total du terme, pour prendre une connotation épistémologique exhaustive, eh bien, il hellénise d'abord. De même que, en Occident en tout cas, lorsqu'un homme veut philosopher, il commence d'abord par helléniser. Et nous le savons très bien. Je me souviens quand j'ai voulu commencer des études de philosophie, on a commencé par me mettre entre les mains une grammaire grecque. Et j'ai beaucoup de reconnaissance au professeur qui a fait ça. Et c'est ce que je dis à beaucoup d'étudiants qu'il m'arrive de recevoir à Jérusalem et qui me demandent de les aider pour un sujet de thèse, parfois des thèses très sophistiquées. La première question que je leur pose, c'est « Est-ce que vous connaissez l'hébreu ?» Ils répondent d'un air étonné, il faut. Il s'agit d'un sujet de doctorat sur des sujets juifs. Et alors finalement, ça ne suffit pas l'anglais. Vous voyez que c'est le problème, quand même, puisque les sources sont en anglais. Enfin, les sources des traducteurs. Et alors, la fin de l'entretien, lorsqu'il est cordial, eh bien, ils emportent une grammaire hébraïque. Je ne leur dis pas encore qu'il faut aussi l'araméen, ça les troublerait. Et combien il y a de dialectes araméens. Je reviens donc au problème, c'est que voilà, le génie grec a réussi à retrouver la langue universelle au niveau de la quantité. Alors que le génie hébraïque, il lui a été confié la langue universelle au niveau du sujet, de la personne, de la qualité, de la morale, et de la loi, de la religion, de l'esprit. Et il y a là deux vocations qui sont attelées apparemment à la même réussite, mais que l'histoire va condamner à être rivale et irrémédiablement rivale avant la réconciliation. Parce qu'il y a toujours un espoir. Et voilà comment le Rautner l'explique. Alors à partir de ce moment-là, je targoumise, enfin j'interprète, bien entendu. C'est ceci. C'est que lorsque le génie grec s'en tient à sa vocation propre, alors, et sa place est dans les tentes de Shem, selon la prophétie de Noach. Parce que le verset est très clair. Hein? La langue grecque. Mais si le génie grec entre en compétition avec ce qu'est la vocation propre d'Israël, alors il y a conflit. Pour le préciser un peu plus, mais je crois que c'est déjà suffisamment clair, lorsque le génie grec fait la science, alors il est au service du Dieu un qui a créé le monde qui est matière, la science, esprit, prophétie. Mais lorsqu'il s'occupe des problèmes de la prophétie, et là c'est le conflit entre la philosophie et la prophétie, alors il entre en compétition avec Israël. Et c'est ce qui s'est arrivé en Judée au temps des Asmonéens, au temps des Grecs. C'est-à-dire le conflit n'était pas du tout au niveau de ce qui est propre et spécifique et légitime à la civilisation grecque, il était au niveau d'une tentative d'usurpation par le génie grec de ce qui est le propos du prophète hébreu. Et pourquoi, nous dit le Rautner, ça mène à la catastrophe? C'est parce que le génie grec, s'emparant du problème de la Bible, y met son propre conditionnement intellectuel et y introduit l'obscurité. C'est les termes du Midrash. Virchir enem chez l'Israël. Parce que lire la Bible avec le regard qui est légitime pour faire l'autopsie du monde, la science, c'est assassiner l'esprit. C'est-à-dire, lorsque le grec s'occupe du problème de l'esprit, il y met la loi de la matière. Alors que l'inverse, dit le Rautner, est asymétrique. Lorsque l'hébreu, dont la vocation est l'esprit, s'occupe de la matière, il la transfigure. Ça signifie que il est légitime qu'un hébreu collabore avec le grec au problème de la science, et il arrive qu'il y ait des juifs prix Nobel, mais il y met cette touche que Pascal appellerait l'esprit de finesse dans ce que Descartes aurait appelé l'esprit de géométrie. Ça ressemble un peu. Okay. Tandis que lorsque le grec s'occupe du problème des prophètes, le sujet, la personne, la qualité, la liberté, l'esprit, la morale, alors il y met l'impersonnel, et c'était ça le conflit. Voilà, je crois, quel est le stade du problème aujourd'hui ? Pourquoi la tradition hébraïque a accepté, en principe, le grec comme langue de traduction ? Parce qu'elle y a vu son génie propre, la beauté qui permet de véhiculer la vérité. Et il nous arrive de rencontrer des hommes des nations qui ont le génie de la beauté et qui, lorsqu'ils donnent cette beauté comme véhicule à la vérité de la Bible hébraïque, c'est la réussite de cette prophétie. Je pense à un que je connais, mais il n'est pas le seul, c'est Moretti. Je ne sais pas si vous connaissez Moretti. Eh bien, c'est ce cas. Lorsque j'ai connu Moretti, c'est ce verset qui m'est venu à l'esprit. « Yaft elokim leyefet veishkon veoleshem » C'est le génie de la forme, et même si esthétiquement, on est sensible à d'autres formes qu'à celle de Moretti, il y a un génie là. Mais, je ne sais pas pourquoi, c'est son privilège, c'est sa grâce, mis au service de la lettre hébraïque. Alors, la vérité habite la beauté. Et il peut y avoir des Hébreux qui imitent Moretti, mais c'est quand même Moretti qu'ils imitent. Il y a des imitateurs contemporains de Moretti, des Juifs. Et ainsi de suite. Il y en a d'autres. Mais lorsque les rabbins se sont aperçus que, au-delà de la langue grecque, il y avait la pensée grecque légitime dans son domaine en tant que philosophie de la science, mais devenant illégitime en compétition avec la vérité, avec le discours prophétique, c'est là que le conflit est apparu. Et d'où le paradoxe apparent de ces deux sources, la source du Midrash qui dit que la Grèce, c'est l'obscurité d'Israël, et la source de la Gemara qui dit la seule langue dans laquelle on a le droit, on doit traduire la Bible, c'est le grec. En ce temps-là, c'était le grec. Peut-être que de notre temps, il faut une autre langue de traduction, parce que qui peut comprendre ce qu'Israël a à dire s'il le dit en grec ? Quand il le dit en anglais, c'est plus simple. Voilà, c'est ce que je voulais dire, grosso modo.
Je pense, à moins que Franklin Roski veuille intervenir de nouveau, mais qu'il vaudrait mieux se tourner maintenant vers le public de qualité que vous êtes. Vous permettez ce compliment et tout de suite de vous demander de participer.
Deux minutes, je vais sortir. La première question, pas pour moi, je reviens dans 5 minutes.
Bien, veux-tu que nous attendions On peut commencer. S'il vous plaît, nous attendons. Très bien, à la demande du premier participant. Alors, quelques minutes de pause, si vous voulez bien, sans sortir, j'imagine, puisque Manitou va nous revenir tout de suite. Voudriez-vous intervenir tout de suite, monsieur le rabbin ? Je vous en prie. Sur la traduction ? Pardon ? S'il vous plaît. Ça va ?
Oui. Il faut même laisser 5 minutes, non ? Ça va être long, non ?
Oui, vas-y, toi, tu veux ?
Non, c'est que tu peux le faire si tu as des questions pour nous deux dans la salle, j'attends.
Oui, j'imagine que la plupart des questions seront posées, je le dis en ce qui me concerne en tout cas, n'est-ce pas ? Allez, on Ashkenazi, mais si vous avez des questions en attendant à poser à Franklin Roski, qui se trouve à côté de moi, ou éventuellement à votre serviteur, nous sommes à votre disposition. S'il vous plaît, et nous...
Je veux simplement dire à mon ami Franklin que je me demande si le fait qu'il n'y ait pas eu, apparemment, comme tu l'as indiqué, de réaction dans le monde juif à la suppression de la notion à la fois de centralité de la Terre Sainte, centralité de Jérusalem dans l'espace, tient au fait qu'essentiellement, pour la pensée juive, je pense en particulier au Maharal, un de ceux que je connais peut-être le moins mal parmi les penseurs juifs, c'est essentiellement une centralité spirituelle. Le Maharal.
Qu'est-ce que tu dis?
Au XVIe siècle, le Maharal était en contact avec Tycho Brahe. Il était en contact aussi disons, de la science de son époque. Et lorsqu'il parle de la centralité, je pense qu'il veut indiquer par là une centralité de signification spirituelle par rapport auquel nous situons sur le plan moral et spirituel. Je ne pense pas que ce soit quelque chose de matériel. Par contre, si les représentations des cartes montraient effectivement Jérusalem au centre, dans la mesure où une carte, jusqu'à une époque récente, je pense aux cartes universalistes il y a 10 ans ou autre, les cartes étaient planes en général. Donc, quand elles sont planes, il y a automatiquement un centre. Les cartes habituelles étaient européocentristes. Donc, il y a un centre qui est arbitraire. Le centre, c'est ce que je mets au centre de ma carte. Je me demande si là, il n'y a pas peut-être une confusion dans la notion de centralité. De même, par exemple, que lorsqu'on parle de toujours les quatre éléments premiers, n'est-ce pas, la terre, l'air, l'eau et le feu, et que l'on s'imagine que les commentateurs juifs, par exemple, étaient restés très longtemps à cette idée que c'était les éléments premiers. Le Maharal dit très clairement dans le Gorot Hachem, en citant ces quatre éléments, il parle d'éléments simples qui sont absolument des éléments qui constituent la terre, l'air, le feu et l'eau, ce qui montre bien que là aussi, c'est une façon de parler prise dans le langage de l'époque, mais qui ne signifie pas une adhésion au contenu de vérité que ces termes avaient à l'époque. J'aimerais bien que tu me dises ce que tu en penses. Voilà quelle est mon opinion sur ce sujet.
Oui, en vérité, j'avais simplement remarqué donc cet exemple pour indiquer pas du tout quelle était la théorie des penseurs juifs, des philosophes juifs concernant la centralité. Certaines sources midrashiques donnent à penser pourtant que la centralité dont il est question est une centralité physique. Par exemple, il y a des midrashim où il est question de la terre qui a servi à former la tête du premier homme, qui serait donc issu de la montagne de Moria. Il y a peut-être place à plusieurs interprétations, même depuis l'époque la plus ancienne, entre ceux qui ont une vision plus substantialiste de la centralité du Tabour Haaretz, du nombril du monde, et ceux qui ont une vision plus spirituelle, plus métaphysique, moins axée sur la matière et d'une certaine façon plus symbolique. Je pense que les deux visions ont coexisté tout au long de l'histoire juive et que certains auteurs ont privilégié une vision à l'autre. Simplement, je voulais signaler que, par exemple, en ce qui concerne la révolution copernicienne, les réactions d'une part du pape, d'autre part des Luther et des Calvin ont été extrêmement terribles, n'est-ce pas? Les livres de Copernic ont été brûlés, et il a été dans l'index jusqu'à 1850 à peu près. Et il était interdit aux chrétiens, aux catholiques de le lire sans la permission de l'évêque. Et donc il y a une réaction comme si, effectivement, on venait de vivre une hérésie majeure en soulignant que la Terre n'est pas au centre de l'univers. On connaît d'ailleurs que dans le monde juif, il n'y a pas eu une réaction de cette nature, bien au contraire, et que le monde juif a très vite accepté les théories coperniciennes pour différentes raisons. Mais on aurait pu s'attendre au fait que des juifs habitués à voir Jérusalem au centre d'une carte à travers les siècles puissent réagir autrement que par l'attitude des mesures d'une certaine maturité, et car on ne voit pas pratiquement des réactions hostiles, on ne voit pas des juifs de l'époque dire qu'est-ce que ça veut dire qu'un géographe juif ne met plus Jérusalem au centre de sa carte. Pourtant, ce type de réaction semble manquer. Je m'étonne, je ne sais pas exactement, je m'interroge encore sur le pourquoi de cette attitude. Tout se passe comme si le monde juif n'avait pas, donc, effectivement, comme si tu avais essentiellement raison en ce qui concerne les cercles cultivés juifs, à savoir que finalement la vision métaphysique de la centralité de Jérusalem était plus importante que la représentation cartographique de Jérusalem au centre du monde. Mais je crois que la même chose est valable pour la langue, c'est-à-dire dans la mesure où les historiens de langues anciennes ont commencé à considérer l'hébreu comme une langue parmi d'autres, on ne voit pas une réaction violente, on ne voit pas une attitude de renfermement, on ne voit pas une défense et une illustration de l'hébreu comme première langue, mais une attitude qui considère que le problème est mal posé probablement et qu'il convient de réfléchir à la place et à la valeur de la langue hébraïque autrement qu'en termes d'antériorité ou postériorité par rapport à l'histoire.
Je voudrais intervenir juste sur la fin, puisque je n'étais pas là au commencement. C'est que le problème de... du fait que quand même l'hébreu, qu'il soit considéré comme par les savants contemporains, à partir du XVIIe, du XVIIIe siècle, comme une langue à part ou comme une langue comme les autres, eh bien, c'est un problème que je voudrais un peu éclairer par deux remarques. D'une part, toute langue, quelle qu'elle soit, est à part de toutes les autres. Et il y a une spécificité de chacun qui est autonome, propre à chacun. Et déjà, à ce niveau-là, il n'est pas illégitime que l'hébreu réclame son droit à la spécificité, droit qu'il doit reconnaître à toutes les autres langues. Je pense que c'est clair, cette première remarque, il y a une deuxième. Et je rappelle d'une autre manière ce à quoi j'ai fait allusion tout à l'heure. Il y a un consensus universel que, quoi qu'il en soit, il y a une question de à part de l'hébreu d'un autre niveau que la première remarque où chaque langue est à part de toutes les autres. Et je crois qu'il faut être sensible à cela. Vous me permettez, pour l'éclairer, de raconter une petite histoire juive. C'est une histoire alsacienne, d'ailleurs. C'est l'histoire d'un chauffard. Dans une petite communauté d'Alsace, on devait réparer le chauffard. Alors le rabbin, le sous-rabbin et le chamache se sont réunis dans une taverne alsacienne. C'est comme ça on dit, taverne. Bon, bref. Pour parler autour d'un verre de bière cachère du problème du chauffard, mais ils parlaient le patois des juifs. Et alors il y avait un indicateur de la police dans le café. Il entend les juifs, avec des mines de Rosh Hashanah, conspirateurs du jugement, parler d'un chauffard. Il ne sait pas ce que c'est que le chauffard. Vous savez ce qu'est le chauffard? Bon, c'est l'objet de l'histoire. Et alors, l'indicateur fait son rapport au commissaire de police, qui est très inquiet, parce que les juifs ne préparent pas une révolution. Et puis, il convoque le président de la communauté, il demande: Monsieur le président, vous allez bien, tout va bien, vous sentez bien, tout va bien. Dites-moi, qu'est-ce que c'est un chauffard? Le président dit, c'est pour ça qu'il m'a convoqué, ben, un chauffard, je vais vous dire. Un chauffard, monsieur le commissaire, je ne peux pas vous dire. Chauffard, je ne sais pas comment vous expliquer ça. Le commissaire s'est inquiété, il y a quelque chose. Il convoque le rabbin, la même scène. Monsieur le rabbin, qu'est-ce qu'un chauffard? Un chauffard, c'est très simple. Ah, je ne peux pas vous dire. Le sous-rabbin, finalement, le commissaire s'énerve. Il leur dit, si vous ne dites pas ce que c'est qu'un chauffard, je vous mets tous en prison. Alors le rabbin se jette à l'eau. « Eh bien, monsieur le commissaire, un chauffard, c'est une trompette. » Et le commissaire, il dit: « Pourquoi vous n'avez pas dit que c'est une trompette ?»« Mais parce que c'est pas une trompette. » Voilà, c'est un peu la même chose. Je crois que ça éclaire un peu ce problème. L'hébreu, c'est une langue comme toutes les autres, mais c'est quand même pas une langue comme toutes les autres. C'est ça le fond du problème.
S'il vous plaît, une toute petite remarque. D'abord, concernant Adam et le serpent, dans le problème, je voudrais proposer une lecture qui éclairerait peut-être le problème. C'est un nachash, il y a Arum. Arum, c'est aussi Arema. Arema, ça veut dire fantassement de tout.
Alors, Arema, il y a fait.
Arema, ça peut être aussi que la nachash est le symbole de la totalité des animaux. Comme vous l'avez dit.
Ça peut entrer dans l'explication traditionnelle, c'est-à-dire l'intelligence sans la moralité, c'est plus la sagesse, c'est la ruse.
C'est la totalité de l'animal.
Oui, c'est la ruse. N'est-ce pas? Et nachash, il y a Arum, ça ne veut pas dire qu'il était nu, qu'il était rusé.
En préparant une conférence sur l'autopsie, je suis tombé sur un texte, je dois le dire, qui affirmait que les autopsies juives ne pouvaient pas servir pour les non-juifs, que les autopsies non-juives ne pouvaient pas servir à des juifs, étant donné que l'anatomie était différente. Et ça, c'est tout à fait combattu, évidemment, par tous les penseurs juifs actuels, et même les plus orthodoxes, concernant le problème d'anatomie. Pourquoi je dis ça? Parce que je voudrais qu'on revienne. J'étais très frappé par toute la discussion, et c'est un très grand honneur pour nous d'avoir pris facilement toutes ces révolutions-là dont vous avez parlé sans blessure narcissique. C'est un grand honneur pour le judaïsme d'avoir vécu cette période-là, car nous n'avons jamais prétendu que les choses se passent vraiment au niveau physique. Je vous dis une chose tout de suite, si vous allez à Jérusalem, vous vous placez sur le mont des Oliviers, le mont Moria n'est pas plus haut que les montagnes aux alentours. Il y a des collines plus hautes que le mont Moria. Et Jacob était le fils cadet, il n'était pas l'aîné. Ephraim était le fils cadet. Toute l'histoire juive, tout le temps, est en train de nous dire, tout le temps, faites attention, ne vous fiez pas aux apparences physiques des choses naturelles, des choses, on va tout de suite changer. À chaque fois, on va prendre le pied contraire. Donc c'est tout à fait évident que ce n'est pas le côté physique. Et comme un exemple très frappant, je vous dirais, avec quelle facilité, si j'ose dire, Ezra, au moment du passage de Babylone à Israël, a changé l'alphabet. Nous savons qu'Ezra, quand il a passé de Babylone à Israël, a changé l'alphabet hébraïque contre l'alphabet achouri. Donc vous vous rendez compte à quel point il ne faut pas attacher une importance à la validité physique des choses et passer uniquement à la moralité. Et dernière remarque très importante, je crois, sur le point de la traduction, l'hébreu tel qu'il est,
étant devenu ce qu'il est devenu, Dibra Torah Lachon Bnei Adam, nous le savons. Donc c'est nous le Bnei Adam, la Torah, Dibra, notre langue, pour que nous puissions en produire une langue de sainteté. Nous avons le niveau de lecture, il y a 4 niveaux de lecture. Quelle que soit la traduction que vous faites, même si la traduction est un midrash, même si vous choisissez le midrash comme traduction, vous figez la traduction dans une situation de mortifère. C'est la mort. Le texte deviendra mort quoi qu'il soit. Il n'y a qu'en hébreu qu'il garde sa vitalité au niveau des 4 niveaux de signification. C'est tout à fait certain que comme dit Henri Atlan, si dans un niveau mystique c'est les blancs derrière les mots, et bien c'est pas le même blanc quand c'est écrit en hébreu ou quand c'est écrit dans une autre langue. Et pour terminer, je vous dirais que s'il y a eu une incompréhension de la part des chrétiens, protestants et catholiques concernant et Copernic, c'est parce qu'ils ont lu le texte justement pas en hébreu, c'est pour ça qu'ils n'ont pas compris.
C'était... comment était le verset, rappelle ? Ve'aretz le'olam omadet. Ve'aretz le'olam omadet. Je dirais cela avec une connotation contemporaine, ve'aretz, Eretz Israël le'olam omadet. Bien. Eh bien, vous...
S'il vous plaît.
Me demande de prendre la parole. Alors, si David me la donne, je veux bien la prendre.
C'est moi qui ai demandé à Michel Prince de te la demander.
Je te remercie de prendre la parole pour dire d'abord combien je regrette de n'avoir pas pu assister hier à un débat auquel j'aurais certainement énormément appris. Et j'ajouterai aussi combien j'ai été impressionné tout à l'heure par le remarque de Malitou à propos du génie grec et du génie juif du conflit qui surgit lorsque le génie grec transgresse le domaine qui lui est propre. Et je pense que là, il y aurait la matière, non pas d'un colloque, mais d'une série de conférences, de colloques, de rencontres, de débats. Le sujet est grave, il est d'une grande richesse, il serait intéressant de pouvoir reprendre. Je ne parlerai pas de traduction, je ne suis pas linguiste, je voudrais faire une remarque à propos de la géographie. À propos de la géographie et de la centralité spatiale qui me paraît être dans le judaïsme comme ailleurs. Un postulat traduisant la centralité spirituelle, quoi qu'en disent les textes que rappelait Frank Lauransky tout à l'heure. Et là, il y a un problème. Je crois qu'il y a un problème réel, c'est celui d'une géographie juive. Il y a un problème d'une géographie juive comme il y a un problème d'une histoire juive. Je me demande s'il n'y a pas une distance entre l'approche concrète de réalité spatiale et leur expression spirituelle comparable à celle qu'on a souvent dénoncée, soulignée dans le judaïsme, entre la richesse extraordinaire de la sensibilité de la mémoire juive, nous en avons discuté un jour avec Manitou ici même, et la fragilité, la faiblesse, sinon l'absence d'une histoire instituée comme enseignement et comme discipline scientifique. Il y a là un réel problème. Et quand mon ami Rowski mentionnait le nombril, l'omphalos grec, mais évidemment, c'est un postulat, c'est une revendication de supériorité. Il y a un texte d'Aristote dans la Politique qui est fameux et qui est une clarté parfaite. Si l'omphalos est à Delphes, c'est parce que les Grecs estiment qu'ils sont meilleurs, qu'ils sont supérieurs, à la fois à l'Orient, certes cultivé, mais perverti, et à l'Occident, pur et dur, mais sauvage et rude. Le centre spirituel, le centre de valeur, le centre de... les centres éthiques, hein, un centre axiologique du monde, se trouve en Grèce, c'est pourquoi la Grèce est au centre. Alors maintenant, comment on passe de cette revendication, de ce postulat, à une représentation spatiale? C'est tout un problème. Et je soumets à votre réflexion, pour vous distraire et pour édifier nos débats, l'atlas du judaïsme contemporain de notre ami Nicolas Delange. Vous verrez qu'il y a là des cartes géographiques étonnantes et vous verrez que le centre du judaïsme, de la judaïcité contemporaine, eh bien à Brooklyn, parce que c'est là qu'il y a le plus de juifs. Alors voilà, un premier problème. Un deuxième problème, là je serai très bref. Langue universelle, langue originelle. Notion dangereuse quand on les met en parallèle, car le parallèle lui-même est périlleux, il peut nous conduire vers la confusion. Je veux dire par là,
Je ne suis pas linguiste. Mais on croit, il y a de linguistes éminents ici qui me corrigeront tout à l'heure. Mais on croit les linguistes, et là nous touchons au problème de la polygénèse ou de la monogénèse de l'espèce. Ce sont des problèmes d'une grande gravité. Je pense à nos débats autour de notre ami Léon Poliakov, auquel Franklin Lansky faisait allusion tout à l'heure. En quoi le linguiste dis-je, il n'y a pas de langue primordiale.
Monsieur.
Alors, du moment où il n'y a pas de langue primordiale, c'est très grave pour nous. Mais je pense que le fait qu'il n'y ait pas de langue primordiale scientifiquement démontrable, une langue commune à une humanité à l'aube de son histoire, n'est pas opposable au principe de l'unité de l'espèce tel qu'il est inscrit dans la conception biblique, dans la conception juive de la création de l'homme. Je ne m'étendrai pas davantage sur ce sujet. J'aurai sans doute encore d'autres réflexions à vous soumettre. Ce sera l'expression à la fois de mon ignorance, de ma curiosité et de l'intérêt que je portais à ce colloque.
Merci beaucoup, c'était une remarque très importante. Et, écoutez, si vous permettez, je dirai quelques mots sur la notion de nombril du monde. Dans le terme hébreu, c'est tabour. Et en citant un harmonique d'un enseignement des maîtres kabbalistes, c'est que, suivant le postulat, que le monde est nourri, il n'est pas seulement créé une fois pour toutes et jeté dans l'espace, il est nourri de ce qu'on appelle en hébreu le shefar, comment traduire, l'influx qui fait vivre, qui vivifie, et cet influx, cette bracha, cette bénédiction, et résulte de la prière des hommes. Or, les prières sont récapitulées à Jérusalem. Et par conséquent, c'est le terme de tabour, nombril, qui a été choisi, parce que l'embryon dans le sein de sa mère se nourrit par son nombril. Et donc, c'est le fait que le monde est nourri grâce à la prière de Talpiot. Et Jérusalem est appelé Talpiot, l'endroit où se récapitulent les prières pour monter et redescendre en bénédiction, qu'on a appelé ça le nombril du monde. Alors, en vous écoutant, je voulais vous poser une question. Mais en grec, c'est le même mot aussi. Est-ce qu'il y avait le même sens de cordon ombilical, quoi? Je ne sais pas, c'est une question. Bien.
Je crois qu'il est temps de
oui.
Nous avons des médecins traversés.
Oui.
Dans les lettres grecques et dans les lettres hébraïques, j'en ai ici.
Oui, écoutez, je vais vous dire, une fois de plus, le temps. Non, je suis vraiment désolé, je vais vous dire pourquoi nous avons une activité importante qui commence dans un moment, puisque bientôt c'est Yom Yerushalayim. Après avoir donné la parole pour quelques phrases à Michel Prince, je voudrais seulement vous indiquer que je voudrais saluer à haute voix la présence parmi nous du grand rabbin Sirat et lui demander de dire quelques mots à l'Assemblée. Ensuite, pour ceux qui le veulent, nous réunirons à la synagogue du centre pour la prière de Harbi de Yom HaTzmaout et immédiatement après, nous serons dans la grande salle pour l'étude consacrée à Yerushalayim. L'empereur ou le pape. Bon, alors Michel, quelques phrases, et ensuite le grand rabbin.